Bonjour à tous. Aux États-Unis, alors qu'on attend toujours les résultats de l'élection présidentielle, on va s'interroger sur ces électeurs de Trump qui ont créé la surprise puisque Donald Trump a séduit plus de 5 millions d'électeurs de plus par rapport à sa première élection en 2016. Qui sont ces nouveaux Trumpistes? On en parle avec Carlotta Morteo. On ira dans le Wisconsin, gagné de peu par Joe Biden, où Donald Trump réclame un recomptage des voix. Stéphanie Schuller est allée à la rencontre des habitants de cet État qui craignent qu'une période de grande incertitude ne s'ouvre devant eux avec ce nouveau décompte qui, le sont persuadés, ne changera pas grand-chose au résultat final. Et puis Arim Lipold nous expliquera que l'Amérique ne sera jamais plus la même après ces 4 ans de Trump, le président américain qui, quels que soient les résultats, a laissé une empreinte indélébile sur la vie politique du pays. Aux États-Unis, le comptage des voix se poursuit donc dans certains États clés et pour le moment, Joe Biden en est à 264 grands électeurs, soit tout proche de la victoire avec 270 grands électeurs. Donald Trump est à la traîne avec 213 grands électeurs et on va s'intéresser justement à ces électeurs qui ont voté Trump mais sans forcément être pro-Trump, ces électeurs qui en quelque sorte sont un peu passés inaperçus et ont fait mentir les sondages dans certains États. Ce fut notamment le cas en Floride où Donald Trump est finalement sorti vainqueur. Carlotta Morteo, vous avez sillonné une partie du pays depuis un mois et finalement, ça ne vous étonne pas vraiment que Donald Trump obtienne beaucoup plus de soutien que ce qu'on lui prédisait.
Oui, le premier indice pour moi, ça a été la difficulté que beaucoup de gens avaient à donner leur opinion. C'était très frappant cette année. En général, les Américains ne sont pas timides, ils sont même fiers de défendre leurs idées. Et là, on me disait, c'est personnel, je ne préfère pas, je ne veux pas parler de politique. C'est Becky Martinac, une enseignante dans un lycée rural de Pennsylvanie, qui m'en a parlé en premier. Elle a mis un drapeau pro-Trump au-dessus de sa porte, mais elle l'enlève quand elle part travailler, par peur qu'on lui vandalise sa maison.
Sûrement aider des gens, mais pas moi. Je n'avais pas voté pour le président Trump la dernière fois, mais je ne sais pas ce que je vais faire cette année. Je vais probablement fermer les yeux et choisir au hasard. Non, mais sa réforme des impôts a énormément aidé ma famille. Mes revenus mensuels ont augmenté grâce au crédit qu'il a octroyé aux parents avec enfants. Donc, ça nous a aidé à payer nos factures et à faire nos courses.
En fait, beaucoup de gens indécis ou éloignés de la politique ont pesé le pour et le contre et regardé qui des deux candidats avait le plus à leur offrir. Par exemple, la première chose dont Juan José, un travailleur du bâtiment d'origine nicaraguayenne, m'a parlé, c'est de son père, un vétéran de l'armée qui peut désormais, grâce à une réforme passée par l'administration Trump, se rendre dans n'importe quel hôpital pour se faire soigner. Avant, il devait conduire 2 heures pour aller à l'hôpital dédié aux vétérans. Il y a 18 millions de vétérans aux États-Unis.
Alors, même s'il semble avoir perdu le vote populaire, Donald Trump a obtenu, on l'a dit, plus de 5 millions de voix de plus qu'en 2016. La mobilisation record des électeurs a donc bénéficié aux deux candidats. Cela signifie que Donald Trump consolide et même étend sa base électorale, Carlotta.
Avec des messages simples, efficaces, répétés sans cesse depuis 4 ans, l'ennemi désigné est toujours le même, l'élite politique à Washington, dont fait partie Joe Biden, et le mythe du rêve américain est alimenté sans relâche.
Les choses pourraient être toujours mieux, mais je suis très content avec le président Trump. Je voulais quelqu'un qui secoue le système politique à Washington, qui dérégule l'économie, qui dégraisse le gouvernement.
Pour Joe McCollum, fervent supporter de Trump, ce qu'il incarne de l'esprit américain, c'est la volonté de réussir.
Les gens disent « Trump a fait faillite 4 fois ». Moi, je trouve ça admirable. Ça veut dire qu'il a essayé, il a échoué, il a utilisé les lois qui existaient validées par le Congrès, il a rebondi et maintenant, 25 000 personnes gagnent leur vie grâce à l'entreprise Trump. Oui, aidons les pauvres, mais n'en faisons pas un mode de vie. L'amour, c'est rude. Parfois, il faut laisser les gens échouer et se relever. C'est comme ça qu'on fait en Amérique.
La recette trumpienne ne s'embarrasse ni de vérité ni de politesse. Malgré tout, elle sonne juste pour une partie de l'Amérique avec laquelle il va falloir composer.
Merci beaucoup Carlotta Morteo sur les routes de l'Amérique pour RFI à l'occasion de cette élection américaine si particulière. Et les Américains qui se réveillent donc à nouveau sans connaître le nom de leur futur président alors que le décompte se poursuit, les journaux tentent d'analyser le vote du 3 novembre. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Selon certains quotidiens, c'est le vote afro-américain qui a encore une fois sauvé Joe Biden.
Oui, selon le Washington Post, Anne, le candidat démocrate a été, comme lors de la primaire de son parti en Caroline du Sud, porté par l'électorat afro-américain, un électorat qui s'est massivement mobilisé cette année, d'après un expert électoral de Caroline du Sud, interviewé par le Washington Post. Encore une fois, c'était aux électeurs afro-américains de se lever et de sauver notre démocratie, renchérit Anjan Seawright. L'expert poursuit en soulignant que si cet électorat clé se mobilise, eh bien, il peut faire basculer une élection. En 2020, ils étaient 87% à voter en faveur de Joe Biden contre 12% qui ont donné leur voix à Donald Trump. D'après les militants afro-américains, la mobilisation de ces électeurs très affectés par la crise sanitaire a commencé dès le mois de mars. Une ONG surnommée Black Votes Matter a par exemple concentré tous ses efforts sur les États du Midwest, dont le Wisconsin et la Pennsylvanie, des efforts qui se révèlent aujourd'hui payants, estime le Washington Post.
Est-ce qu'il n'est pas le cas pour le vote latino à RIM, car plus d'un tiers de cet électorat a voté pour le président sortant, Donald Trump, on en parlait avec Carlotta, un chiffre en hausse par rapport à 2016.
Oui, exactement. Le journal USA Today consacre plusieurs articles aujourd'hui à l'analyse du vote. Les Afro-Américains ne sont pas de nature à séduire la communauté latino, plutôt attachée à une certaine idée de law and order, d'après USA Today.
Et Donald Trump, qui est en retard dans le décompte des voix, on le disait tout à l'heure, et qui ne compte pas se laisser faire, il a d'ores et déjà formé des recours en justice et annoncé qu'un recomptage sera exigé dans le Wisconsin, l'un des états clés du scrutin, où Joe Biden est donné vainqueur avec une mince avance d'un peu plus de 20 000 voix. Selon la loi électorale en vigueur dans le Wisconsin, le président a en effet le droit d'exiger un recomptage. À Milwaukee, la plus grande ville de l'État, avec une forte tendance progressiste, la plupart des habitants ne pensent pas qu'un recomptage changera le résultat final. Le reportage de nos envoyés spéciaux Stéphanie Schuller et Bertrand Eclair.
En cette fin d'après-midi, Nathan Franklin profite des derniers rayons de soleil après avoir passé toute une nuit devant l'écran de télévision. Le Wisconsin, explique-t-il, ne serait pas à son premier recomptage. Dans cet État, divisé entre électeurs républicains et électeurs démocrates, les scrutins se jouent souvent dans un mouchoir de poche.
Dans le passé, nous avons déjà vécu beaucoup de recomptages ici, dans le Wisconsin. Ils n'ont jamais mené à plus de quelques centaines de voix de plus. Or, Donald Trump doit rattraper ici un retard de plus de 20 000 voix. Et il n'y arrivera pas. Donc, je suis confiant dans le fait que Joe Biden restera en tête dans le Wisconsin.
En revanche, Nathan s'inquiète de l'impact qu'un recomptage pourrait avoir sur la société américaine.
Cela rallongera cette période de confusion et d'incertitude. Et la dernière chose dont le pays a besoin, c'est l'incertitude. Un éventuel recomptage fera du mal au moral de la population et à l'unité qui s'effondre déjà dans notre pays. Public morale and just the unity that in
this country is already breaking down. Stéphanie Schuller et Bertrand Eclair, Milwaukee, RFI.
Harim Leipold, que Donald Trump gagne ou perde finalement l'élection, une chose semble acquise, son influence restera importante sur le paysage politique des États-Unis.
Oui, déjà, si jamais il ne fera qu'un seul mandat, eh bien, il peut encore faire beaucoup de mal jusqu'à la fin de celui-ci, c'est-à-dire jusqu'à fin janvier 2021, écrit par exemple le New York Times. Mais contrairement à d'autres présidents qui ont dû quitter la Maison-Blanche après avoir effectué un seul mandat, comme Jimmy Carter ou George Bush père, Donald Trump peut compter sur une base électorale d'au moins 68 millions d'Américains, soit à peu près la moitié des électeurs, sans oublier Anne, bien sûr, ses 88 millions d'abonnés à son compte Twitter. Il est clair que Donald Trump restera une voix importante au sein du camp conservateur. Et il pourrait même se hisser en faiseur de roi de futurs candidats républicains, estime le New York Times. Un ancien sénateur républicain explique dans le journal que d'après lui, Donald Trump n'a aucune envie de quitter la scène politique. Il pourrait rester le dirigeant incontesté du parti, notamment grâce à un atout de taille, rappelle le New York Times, à savoir une base de données électorales inédites.
Et les journalistes et universitaires ont encore du mal à comprendre cet engouement pour Donald Trump qui dure malgré tout.
Oui, exactement. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le journal canadien Le Devoir. Donc un regard depuis le Canada. Les gens qui sont allés à l'université, les journalistes, les sondeurs ne voient pas et ne comprennent pas cet enthousiasme qui existe pour Donald Trump. D'après un politologue cité par le journal, d'après lui, les partisans du président sortant ne sont pas représentés dans les cercles des gens qui écrivent sur ce genre de phénomène. Et avec cette méconnaissance, soutient Le Devoir, vient aussi un mépris, un regard porté de haut par les élites qui empêchent d'autant plus à comprendre l'adhésion durable, comme vous l'avez dit, de la moitié du pays à la politique et, semble-t-il aussi, à la personnalité de Donald Trump.
Merci beaucoup, Harim Lipol, pour cette revue de presse et ces analyses très intéressantes.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Comme tous les jeudis, on part en Haïti. On retrouve Franz Duval du Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
Première question, comment Haïti regarde le processus électoral américain aujourd'hui?
Alors, avec un peu d'amusement, il faut le dire. On regarde tout ça avec intérêt, mais avec amusement. Parce que pour une fois, ce n'est pas Haïti qui a des troubles suite à un processus électoral. C'est notre grand voisin et ami, les États-Unis. On regarde tout ça parce qu'on veut bien savoir qui sera le prochain président des États-Unis. Car Haïti et les États-Unis ont beaucoup de relations, des relations qui concernent la communauté haïtienne installée aux États-Unis, mais aussi souvent des relations qui concernent la politique en Haïti, car le poids des États-Unis sur Haïti est un poids important à plusieurs niveaux. On regarde tout ça avec intérêt, mais aussi avec beaucoup d'amusement pour voir que dans les grands pays aussi, il y a des problèmes suite à des élections.
Autre sujet à la une du Nouvelliste, c'est l'assassinat d'une jeune fille, Evelyne Sincère, qui défraye la chronique, un crime qui provoque beaucoup de réactions.
Beaucoup de réactions. Hier, c'est le Bureau des Nations Unies en Haïti qui a réagi, qui a demandé aux autorités de réagir, de faire justice, de protéger la population contre l'action des gangs armés qui terrorisent la population. Il y a les artistes haïtiens également qui se sont prononcés. Ils ont arrêté, beaucoup d'entre eux ont arrêté leur spectacle et pour protester contre ce qui se passe avec l'insécurité, disant qu'eux aussi sont victimes de l'insécurité. Bien entendu, au niveau des artistes, c'est pas l'unanimité, mais le mouvement est assez conséquent.
Et comment l'enquête évolue, Franz?
L'enquête, pour le moment, officiellement n'évolue pas, mais il y a eu un retournement spectaculaire hier soir. Et suite à un avis de recherche lancé par la police, c'est un chef de gang qui a présenté le présumé accusé dans cette affaire, qu'il a maîtrisé et qu'il a remis à un poste de police hier soir. C'est le dernier rebondissement dans cette affaire. Le suspect était recherché par la police, mais au final, ce sont les gangs qui l'ont livré à la police hier soir.
Autre sujet à la une du Nouvelliste, l'État haïtien qui cherche à faire identifier tous les téléphones du pays. Pourquoi est-ce si difficile?
Alors, c'est difficile pour une raison principale. C'est que d'abord, tous les Haïtiens ne sont pas identifiés eux-mêmes. Ils n'ont pas de carte d'identification. C'est l'enjeu pour les prochaines élections, mais c'est l'enjeu aussi pour les téléphones. Quelqu'un qui n'a pas de carte d'identification nationale, peut-il acheter un SIM, peut-il acheter un téléphone? Les compagnies répondent oui, on doit donner le droit de communiquer à tout le monde. L'État haïtien dit que chaque téléphone doit être identifié. En réalité, c'est l'œuf ou la poule, on ne sait pas qui va avoir raison. Pour le moment, plus de 6 millions d'Haïtiens ont un téléphone cellulaire et l'utilisent, mais l'office officiel qui délivre les cartes d'identification nationale n'est pas encore arrivé à délivrer 3 millions de cartes.
Merci beaucoup, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonne journée à vous. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, 12 nouveaux sites précolombiens découverts en Guyane par les agents du parc amazonien.
Oui, ces agents qui, par leur fonction même, arpentent le terrain et savent reconnaître un vestige historique là où d'autres ne verraient que de la végétation. Écoutez ce reportage de Pierre Tréfou à Saül, au plus profond de la forêt amazonienne.
Armé de son GPS et de sa machette, l'agent du parc amazonien Stéphane Plaine et moi-même pénétrons la forêt de Saül et ses marécages pour atteindre finalement la montagne Liane, où se trouve un site précolombien vieux de plusieurs siècles. À quelques mètres seulement de ses vestiges, un fossé semble dessiner le contour de la montagne et d'une cité.
On voit le sommet de la colline en plateau qui est très clair. Une forêt qui ne ressemble pas du tout à une forêt d'origine. On a des bons indices pour dire qu'on est sûrement en présence d'un fossé. Et donc ensuite, il suffira de le confirmer en parcourant ce qu'on considère être le fossé.
Une découverte confirmée en avril dernier par mesure LIDAR, un laser aéroporté. Mais c'est au sol et grâce aux missions de reconnaissance des agents du parc qu'une dizaine de sites précolombiens ont été découverts dans la région de Sahul, constituant un réseau de villages fortifiés construits par les Amérindiens avant le XVIe siècle.
On passe à un tout autre sujet avec la mort de l'une des figures les plus célèbres du barreau guadeloupéen. L'avocat Daniel Démocrite s'est éteint hier, il avait 75 ans. Franck Aristide.
Une voix de stentor, une combativité hors du commun et un lieu de prédilection, la cour d'assises. Daniel Démocrite était ce qu'on appelle un ténor du barreau. Durant 5 décennies, l'homme a fait résonner les tribunaux de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, en passant par Paris. Son dernier fait d'armes, l'acquittement par 2 fois de Rudy Alexis, l'accusé principal du meurtre du syndicaliste Jacques Binot en 2009. Mais Daniel Démocrite, c'était aussi l'avocat d'affaires qui ont défrayé la chronique locale et même nationale. Le dossier de l'ennemi public numéro 1, Tim Allon, du leader d'extrême gauche accusé de grand banditisme, Pierre Goldman, du scandale politico-financier de la Sodeg. De nombreux hommes politiques, tels que Lucette Michaud, s'étaient aussi engagés sur la scène publique lors des grands débats de société qui ont agité ou agitent encore la Guadeloupe. Ils s'étaient même risqués à la politique. Une vie de combat, son dernier, c'était celui contre la maladie, l'un des rares qu'il ait perdu.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain. Merci à vous, Benoît Ferrand, et très bon après-midi. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain, 14h10, heure de Paris.
Tout, RFI, tout, la sélection du mois.
Clay and Friends.
De 2 billets d'avion, mais on a manqué le vol. Voulu lui faire la cour, jamais été à l'école. Je connaissais comme mon alphabet. Pas comme elle amène au père.
Dédé Saint-Prix. And Green Tea Pang. Afel Boukoum et Vin Gordon.
RFI. Vous êtes jeune journaliste âgé de 18 à 35 ans? Vous exercez en Haïti? Participez à la 6e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti que l'OIF vient de lancer et choisissez la catégorie qui vous convient, presse écrite, radio ou télévision. Date limite de dépôt des dossiers de candidature, 30 novembre 2020. Plus d'informations sur jeunesse.francophonie.org en partenariat avec RFI.